France Inter.
Pas vu venir. Accordez-nous une seconde avant d'atterrir. La nuit nous guette, elle nous regarde danser muette. On est jeunes, ils sont bêtes. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pub, on sera des héros.
Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
C'est pas moi qui le dis, à nous les tragédies. T'entends cette mélodie, regarde devant, au-dessus des incendies, le ciel qui nous sourit, et tous ensemble on crie. Et là dans le club, on rêve d'un monde nouveau. Saoulés dans le pain, sera des héros.
Je n'ai pas peur de la mort, j'ai juste un peu peur du noir. Le monde s'écroule sous nos pieds, ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et bien que ce soit la fin du monde, j'entends le vent du nouveau monde souffler avec moi pour la fin du monde.
La fin du monde. Ça nous empêche pas danser. Demain j'y crois encore, demain j'y crois encore. Et mon cœur, crois-moi, on s'aimera jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du monde.
Bonjour Sam Sauvage.
Bonjour.
Révélation masculine aux dernières victoires de la musique. On écoutait La fin du monde, chanson de votre premier disque qui vient de sortir sous le titre Mesdames, Messieurs. Est-ce que vous la redoutez, La fin du monde, Sam ?
Justement, pas vraiment. Parce que je sais qu'il y en a un nouveau derrière. C'est pour ça que je parle dans cette chanson du nouveau monde que la jeunesse est en train de créer aussi. Mais sans renier non plus les anciennes générations. Moi, je suis pour la réconciliation des générations. C'est un peu mon rêve d'idéal. Après, voilà, ça reste le mien et mon avis de comptoir. Mais donc non, je crains pas tant que ça la fin du monde. Je crains plutôt le comment va se faire le nouveau et quand.
Mon avis de comptoir, c'est intéressant, ça ferait un bon titre de chanson d'ailleurs.
Ouais, bah ça y est.
Ça veut dire qu'écrire des chansons, c'est un peu donner un avis de comptoir ?
Ça dépend ce qu'on fait, je pense. Moi, je pense qu'à partir du moment où comment je... Moi, dans mes chansons, je donne rarement mon avis. C'est-à-dire que souvent, je regarde, j'écoute ce que les gens disent, j'en fais des chansons, je pique 2-3 phrases, je suis un peu un voleur de phrases dans les cafés, comme le font les auteurs-compositeurs clichés du monde. Et par contre, une fois que je donne mon avis, des choses comme ça, bah, comme dans cette chanson-là, un petit peu, je dis qu'il y a un nouveau monde, tout ça, il y a peut-être que je suis seul à le penser, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'appelle ça un avis de comptoir. C'est parce que c'est le mien. Maintenant, si plein de gens le partagent, bah, ce sera un avis partagé.
Vous auriez aimé faire de la politique ?
Je pense que quand j'étais jeune, oui, et puis après, ça m'a embêté de donner des leçons.
Quand j'étais jeune, dit-il à 25 ans.
Non, je voulais dire quand j'étais enfant, pardon.
J'ai bien compris.
Quand j'étais adolescent plutôt, enfin je veux dire là je suis jeune adulte, quand j'étais adolescent, pardon, je me suis trompé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est plutôt, j'avais un peu l'ambition de faire du droit, des choses comme ça, un peu de l'art oratoire, ça j'aimais bien parler.
Avocat.
C'est ça, ouais, avocat, un truc du genre, c'était encore mieux, mais oui, il y a un peu de trucs de... En politique on donne des leçons, on impose des avis, on a besoin de se battre un peu, je trouve qu'en musique beaucoup moins, mais c'est beaucoup plus doux la façon dont on se bat.
Quand j'écoute vos chansons, il y a eu deux EP avant ce disque, ça me sauvage, j'entends quelqu'un qui se soucie des autres. J'entends quelqu'un qui regarde les autres, j'entends vraiment quelqu'un qui écoute les autres. Je trouve que vous avez un peu un œil de photographe, en tout cas d'observateur.
Ouais, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire, donc ça me fait plaisir qu'on le ressente comme ça. Disons que dans toutes les chansons à peu près, je parle plus des gens que de moi, et les moments où je parle de moi, je mets plein de métaphores, ce que je ne fais pas quand je parle des gens.
Parce que vous trouvez ça peut-être un petit peu obscène de parler de soi dans une chanson ?
C'est pas que je trouve ça obscène, je trouve qu'il y en a qui le font très bien et parfois ils arrivent à faire en sorte que les gens s'identifient à eux.
Ah oui.
Moi c'est moins le cas, je crois. J'ai l'impression que ma vie privée n'intéressera personne. Donc disons que je la raconte assez quand je suis autour d'un verre avec des potes, tout ça, on parle déjà de ça. En chanson, je pense que c'est pas... j'y trouve pas un intérêt énorme. Je pense que c'est beaucoup plus sympa de parler des gens, de parler ce qui se passe autour de moi et d'en faire des chansons.
Est-ce qu'elle est riche, votre vie privée ?
Bah pas tant que ça finalement, c'est peut-être pour ça que j'écris pas dessus, parce qu'en fait depuis que je suis musicien surtout, c'est-à-dire que maintenant je fais des tournées, je suis en concert, il y a beaucoup moins d'intérêt à écrire sur ce que je fais, faire des concerts, en fait c'est pas une vie extraordinaire, c'est vivre ce qu'on a vécu avant et ce qu'on a mis en chanson avant.
Vous dites que votre vie privée elle est un petit peu banale, mais quand on regarde un peu votre biographie, il y a un père qui est absent depuis que vous êtes petit, il y a un grand-père qui a pris le relais et qui vous a élevé, qui vit toujours et vous me disiez en arrivant, il va encore mieux que moi, il est en pleine forme, donc c'est une figure imposante et aimer. Tout ça, c'est pas banal.
Non, c'est pas banal.
Et ça pourrait faire des chansons.
Ah oui, bah ça, on a déjà fait quelques-unes, à chaque fois en utilisant des métaphores, donc on les comprend pas tout de suite.
C'est ça, c'est très discret.
Je suis assez pudique là-dessus.
Le monde s'écroule sous nos pieds, bah vous faites le constat qu'on fait tous, mais que les jeunes font en manifestant, en écrivant, en tweetant. Vous le faites en chanson, et vous dites effectivement, ça nous empêche pas de danser, demain j'y crois encore, ça fait du bien d'entendre ça dans une chanson. Surtout peut-être dans la voix de quelqu'un de 25 ans.
Bah j'espère, parce que en tout cas moi ça me fait du bien aussi de le chanter. Donc j'ai écrit cette chanson parce que justement je disais qu'on passait des journées un peu terribles parfois avec l'actualité anxiogène, tout ça. J'en ai parlé récemment, je me suis pris un peu une sauce comme on dit.
Ah bon ?
Avec quelques personnes qui m'ont dit tu serais né en 14-18, tu verrais un peu ce que c'est d'être un jeune angoissé. Mais je comprends tout à fait en fait. C'est juste que je compare pas les générations, je compare pas les problèmes. Je pense que il y a bien d'autres gens. Moi j'ai un petit confort personnel, hein, donc je vais pas le renier. Je suis de la classe moyenne, je suis heureux comme ça, j'ai toujours été heureux, j'ai manqué de rien. Par contre ça m'empêche pas de sentir le monde, de sentir ce qui se passe autour. Et moi ce qui me fait encore plus rire, c'est quand la journée est complexe, on se dit qu'on est tous déprimés en tant que jeune, en se disant que ça va s'arrêter demain. Et le soir pourtant dans une boîte à Paris, bah ça danse, ça crie. Et en fait on a besoin de ça, on a besoin de s'amuser. Et c'est ça aussi qui fait la transmission vers le Nouveau Monde, c'est pour ne pas tout lâcher tout de suite.
C'est vrai que vous parlez beaucoup des soirées, vous parlez des bars, vous parlez de l'alcool en soirée. Il y a une chanson dans laquelle vous dites en fait on cherche une attitude. J'aime bien cet aveu.
Absolument. Bon, en tout cas, moi j'ai cherché mon attitude. Alors pas qu'avec l'alcool, hein, je rassure tout le monde, et surtout moi le premier. Je pense que... On cherche à se désinhiber soi-même, et en cherchant à se désinhiber, je pense qu'on s'invente des personnalités qui ne sont pas les nôtres, et ça nous permet de survivre un peu dans ce qu'est la société. Et quand on est vraiment très très jeune au tout début, à 18-19 ans, c'est dur de se trouver sa place. Surtout quand on n'est pas... Moi j'étais pas très beau, j'avais ce truc-là, je me sentais pas bien dans ma peau, beaucoup d'acné, donc j'avais besoin d'autre chose. Et dans les soirées, je m'inventais des personnalités, j'avais besoin d'être quelqu'un, et je pense aussi que c'est pour ça que j'ai voulu faire chanteur.
Qu'est-ce qui est pas beau chez vous ?
Qu'est-ce qui est pas beau ? Moi, c'est vraiment l'aspect physique, j'ai du mal avec ça. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre un costume au début, mettre des choses comme ça, je voulais m'habiller en croque-mort pour que personne me voie. Et en fait, ça a fait l'effet tout inverse, parce que tout le monde me regardait bizarre. Donc, dans la cour de récré, c'était compliqué.
Oui, et sur scène, vous avez, et sur vos pochettes de disques, etc., vous avez un look qui est toujours le même, une veste noire.
Absolument, une veste noire.
Une chemise blanche.
Et une cravate noire.
Et vous l'avez aujourd'hui, là ?
Oui, aujourd'hui, ouais, j'ai fait un petit effort, mais en fait, l'effort que je fais tous les matins, donc ça va.
Et vous êtes toujours, tous les jours, même en dehors de la promotion, en dehors de la télévision et de la radio en l'occurrence, avec une cravate et une chemise blanche ?
La cravate, parfois, elle s'en va, parfois, je laisse juste la chemise, parfois, je mets un blazer, mais j'ai toujours eu ce truc-là de ce que les gens appellent l'élégant, les choses comme ça. Bon, après, je pense que c'est voué à varier, ce terme.
On va dire le dandy, ça me sauvage.
Ouais, c'est ça, mais souvent, je renie un peu ce truc de dandy parce que moi, je dis que souvent, j'ai pas les pompes cirées, quoi. C'est-à-dire qu'un dandy, c'est quand on est issu de la bourgeoisie, des choses comme ça. Moi, pour le coup, j'ai pas eu cette chance d'être né dans la bourgeoisie.
Qu'est-ce qu'elle fait votre mère ? Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Ma mère, elle était institutrice. Là, maintenant, elle est à la retraite, mais institutrice. Donc
à Boulogne-sur-Mer ou à côté ?
C'est ça, ouais. Elle était à Nesle. C'est un tout petit village à côté de Condé, là où on vivait à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est tout un triptyque. Et mes grands-parents avaient un camping. Et ils ont toujours un camping d'ailleurs.
Ouais. Et j'en parle parce que il y a une chanson qui a trait à Boulogne.
Absolument.
Hein, où vous parlez pas spécialement du camping,
non,
mais
non.
En tout cas des marins.
Oui, des marins.
Et qui ont du courage,
oui.
Et qui vont chercher des migrants, qui prennent la mer dans ce but. Et c'est une façon de les admirer aussi que de chanter ça.
Je pense sincèrement que oui. Je veux dire, moi j'admire, et peut-être que je ne suis pas objectif, peut-être que j'ai un côté chauvin par rapport à ma ville, mais ce n'est pas forcément ce que je mets en valeur. C'est juste que, oui, il y a... Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et il y a des clichés qui sont tenaces à Boulogne, où on parle de gens racistes, on parle de gens qui refusent comment les migrants, qui ont envie de les mettre ailleurs, que ce soit en Angleterre ou à Paris, et qu'on les veut pas ici. Moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu des gens comment justement qui se battent pour faire en sorte que l'accueil se fasse bien, qu'on puisse faire ce qu'on peut, malgré nos moyens qui sont limités à Boulogne. Et j'ai vu surtout des pêcheurs aller ramasser, malheureusement, des fois des corps. Et le plus souvent, heureusement, des gens qui sont en train de se noyer dans la Manche. Donc, on peut avoir n'importe quel avis sur ce qui se passe, pourquoi ces gens sont là, etc. Ça ne me regarde pas. Par contre, on ne peut pas dire que Boulogne ne fait pas tout ce qu'il faut pour les accueillir et qu'ils le font bien.
Vous connaissez toujours la ville parce que vous retournez voir maman.
Absolument. Bah ouais, je retourne voir maman pour mieux manger.
et dormir.
Et j'y retourne souvent, absolument.
Bienvenue dans la balade Sam Sauvage. On va vous écouter encore et puis écouter la musique que vous aimez, la musique d'aujourd'hui. Asfar Shamsi, qui chante 2006, est une musicienne qui vous intéresse ?
Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on s'est rencontrés au Chantier des Franco l'année dernière. Donc ouais, c'est l'année dernière. Et quand elle a sorti ce titre-là, je sais pas pourquoi, ça évoque vraiment cette nostalgie que certains jeunes ont, comme si c'était un truc qu'on a connu mais très enfant, et comme si le monde avait énormément changé depuis. Donc moi j'adore quand elle parle justement, 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. Après, avant je me souciais d'un pénalty. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est une manière que moi j'aurais pas de raconter cette nostalgie-là, et qu'elle, elle a très bien.
Je mettais des faces B dans ma chambre, comme si c'était Planète Rap. Même les murs ils en avaient marre, mais j'avais des trucs à dire. J'avais les émotions, mon cœur j'avais de la peine au fond. Je rappais avec la veine au front. Depuis j'ai grandi, nouvelle douleur sous les habits. Je serre les dents, les canines, je le fais de façon mécanique. Tellement c'est fluide, ils croient que c'est facile. Quand y'a l'amour, y'a la magie. La musique c'est que pour la famille. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. D'autres sortes de problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un pénalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'ai pas de lunettes de soleil, j'ai rien à cacher. Ni la tristesse, ni le manque de sommeil. Je suis venu cracher ce que j'ai dans l'abdomen. Je suis sincère, je suis pas malhonnête. On grandit, on les jette pas nos rêves. Et Youssef il tient sa promesse. C'est la famille avant l'oseille. Let's go, let's go. J'suis pas au studio comme à l'usine. Si je me sentais moins seul, j'ferais sûrement pas de la musique. Et tu brilles, tu brilles, tu brilles. J'écoute l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. De problématiques. Je dis jamais ça va pas, je dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un pénalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.
Arrive David Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon à Trezeguet, les yeux fixés sur le ballon. David,
Asfar Shamsi sur France Inter, 2006, c'est le titre de la chanson. On est avec Sam Sauvage dans sa balade, c'est votre nom d'artiste, Sam Sauvage, et le titre de votre premier disque, c'est Mesdames, Messieurs. Il y a eu deux EP avant. Votre patronyme, c'est Hugo Brebion. Est-ce qu'on vous appelle plus Sam que Hugo ?
Ça dépend qui. Ma mère m'appelle Hugo, forcément, mes grands-parents aussi. Mais par contre, je pense que dans la vie de tous les jours, mes potes m'appellent Sam, mais ça fait un petit moment, parce que c'est un surnom qu'on m'a donné à 14 ans quand j'ai fait une soirée, première soirée, où certains buvaient de l'alcool pour faire comme les grands. Moi, j'ai refusé. Et à l'époque, c'était le Sam, celui qui conduit, celui qui boit pas.
Le Monde écrivait récemment, Sam Sauvage aurait pu jouer dans Les Nuits de la Pleine Lune d'Éric Rohmer, film de 1984 avec Luchini et Pascal Augier. C'est vrai qu'il dansait beaucoup, comme dans vos chansons, sur la musique de Jacques Nau. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Les Nuits de la Pleine Lune, Rohmer, ou c'est quelque chose que vous n'avez pas encore découvert ?
Je ne l'ai pas encore découvert, mais il y a une scène qui me dit quelque chose, où on voit Luchini danser devant une dame, je crois.
Pascal Augier, oui.
Ah bah c'est ça, voilà. Et puis comment on le voit un peu danser mal à l'aise, comme ça. Oui, bah je pense qu'en tout cas, au niveau de la danse, il y a quelque chose.
La New Wave, les années 80, sont-elles importantes ces années-là pour vous ?
Oui et non. En fait, quand j'ai sorti Les gens qui dansent, c'était le premier titre qu'on a sorti avant l'EP, tout ça, il y a plein de gens qui m'ont dit... Enfin, déjà, il y a plein de gens qui m'écoutaient, j'étais très content. Et après, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, c'est génial, c'est le retour de la New Wave. » Et en fait, moi, j'aurais dit « Bah, je sais pas comment, parce que je sais pas ce que c'est la New Wave, mis à part comment les Talking Heads un petit peu que j'ai regardé, avec David Byrne qui danse, ces petits refs-là que j'ai, ça reste des références lointaines. » Et je pense que c'est plutôt par rapport à mon manque de capacité à créer un rythme. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus mélodique et accord, tout ça, et le rythme, moi, je mets juste ce qu'on appelle un kick snare, un poum tchak, voilà.
C'est quoi?
En gros, c'est vraiment la grosse caisse et la caisse claire qui fait poum tchak, de manière comment hyper régulière et qui ne change jamais de rythme, avec une basse très simple et très, très codifiée, très boîte à rythme, très boîte à basse presque. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qui donne cet effet New Wave, parce que je pense que je ne suis pas capable justement de faire un son de batterie. Moi, je suis beaucoup plus dans la mélodie, je pense que c'est la mélodie qui fait les morceaux, et d'ailleurs même parfois plus que le texte. Donc c'est-à-dire que la mélodie pour moi peut faire retenir n'importe quelle parole, aussi belle ou aussi laide soit-elle, aussi bien ou mal écrite soit-elle. Moi, j'ai plus besoin de mélodie que de rythme. Je peux d'ailleurs écouter un morceau, et c'est ce qui se fait dans les drops avant que la batterie revienne. Il y a la mélodie qui reste pour conserver les gens dans le public qui écoutent le morceau avant de leur faire monter en crescendo l'intention du drop. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est la mélodie qui reste tout le temps.
Vous commencez par la musique, par ce son-là?
Ça dépend. Dans la création, moi, comme beaucoup d'artistes, je pense d'ailleurs, j'ai entendu quelques interviews des gens dire pareil, c'est que je suis dans un chaos de création totale, c'est-à-dire que j'ai pas aucune méthode, et si j'en avais une, je pense que je voudrais pas l'appliquer parce que je m'ennuierais, donc j'ai besoin de faire ça à l'instant.
Donc vous pouvez arriver en studio avec une chanson totalement écrite, ou arriver avec une idée de son, de musique?
J'arrive toujours, je viens de commencer, donc ça se trouve, c'est sûrement voué à changer, je suis encore très débutant dans la matière, mais quand je suis arrivé en studio, moi j'arrive quand même avec les chansons faites. C'est-à-dire que les chansons sont écrites, elles sont composées. Maintenant, par contre, avec les arrangeuses, comme avec qui on a travaillé cette année, on a essayé parfois d'aller chercher d'autres idées, d'aller mener la chanson plus loin, ou parfois de lui retirer des éléments, j'ai tendance à en mettre beaucoup, donc faut laisser respirer, et ça dépend vraiment de chaque chanson, c'est très instinctif, et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans ce métier-là.
Vous écoutiez quoi à Boulogne quand vous aviez 14-15 ans alors?
À 14-15 ans, j'ai découvert à ce moment-là Bob Dylan, ouais. Donc ça a été une révélation, et Bob Dylan d'ailleurs qui est, je trouve, très bon mélodiste, et qui est, en plus d'être un auteur formidable, mais ça je l'ai découvert plus tard avec quelques cours d'anglais que j'avais pas au début, et non, c'était du Bob Dylan, et puis après j'ai monté un groupe de rock au lycée, donc c'était vraiment, on écoutait que les classiques, les Rolling Stones, les Beatles, et puis on faisait une guéguerre entre les deux. Et
ça s'appelait comment le groupe?
C'était Photomaton, mais je m'en suis fait virer, donc c'est une longue histoire.
Oh, c'est pas mal ça pour votre légende.
C'est ça, c'est très
venir.
Rock, mais bon, c'est parce qu'ils voulaient faire du métal, et moi j'étais très rock classique, très... Puis finalement après j'écrivais en français, ça leur plaisait pas, mais j'arrivais pas à écrire en anglais, donc ils m'ont mis dehors.
Comment la guitare est-elle arrivée entre les mains de Sam Sauvage?
C'est justement une première fois quand j'avais 6 ans, parce qu'il fallait, ma mère voulait toujours que je fasse une activité extrascolaire, elle voulait toujours que je fasse quelque chose, et elle a bien fait tenir ce principe parce que j'ai fait plein de sports, même si j'étais très mauvais. Mais un jour j'avais tenté la guitare, qui n'était pas un sport, c'était de la musique, ça lui plaisait aussi, elle me disait que c'était bien. Et on avait une guitare un peu pas chère, qu'on avait achetée vite fait pour les cours, et c'était une guitare classique, et je pense que j'ai vite abandonné parce que le prof était terrible à l'époque, je citerai pas son nom, mais vraiment c'était un tyran quoi, de la guitare. Donc à 6 ans j'ai arrêté, ça m'a dégoûté, mais cette guitare je l'ai gardée, donc dans le grenier, et à 14 ans quand j'ai découvert Bob Dylan, je l'ai ressorti pour apprendre ce morceau de Bob Dylan et pouvoir me trouver une nouvelle identité, une nouvelle personnalité, celle du musicien cool, c'est celle que je voulais quoi.
Quand vous avez un air qui vient, une mélodie à laquelle vous tenez tant, Sam Sauvage, qui vient, est-ce que c'est la guitare que vous prenez en premier ou les claviers?
Au tout début c'était la guitare, maintenant c'est aussi le piano, et puis parfois même c'est un synthétiseur, et puis en fait ça part vraiment dans tous les sens, c'est ça qui est bien, c'est que moi dès que j'ai un instrument entre les mains, je peux pas m'empêcher de vouloir apprendre à en jouer, aussi compliqué que ça puisse paraître. C'est même l'harmonica, hein. Des fois, il y a encore pas longtemps, là j'ai un saxophone, au grand détriment de ma voisine du dessous qui me déteste déjà, mais j'en ai fait un peu l'après-midi, et j'avais trouvé une mélodie avec ce saxophone. Bon finalement je l'ai pas joué au saxophone après, mais je l'ai trouvé comme ça, alors que je suis pas saxophoniste, c'est juste que n'importe quel instrument on peut trouver une mélodie en faisant un peu n'importe quoi dessus.
Vous habitez Paris?
Tout à fait.
Dans un studio?
Dans un petit studio, ouais, dans le 13e arrondissement.
Qui est donc rempli d'instruments, Sam Sauvage?
Bah en tout cas, plus que d'ustensiles de cuisine, puisque ma cuisine est devenue un studio.
Oui.
voilà. Oui. Je mange des salades de la boulangerie du midi et des sandwichs. Je me fais pas à manger, j'arrive pas à faire ça. J'ai jamais eu cette passion-là. Moi, je fais vraiment de la musique tout le temps, ouais.
Est-ce que vous commencez à gagner de l'argent?
Par rapport à la musique,
ouais.
En vrai, ça me permet déjà de vivre et payer mon loyer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et maintenant, j'en vis, je pense que ouais, j'en vis là. C'est un peu compliqué parce qu'il y a encore des trucs que j'avais remboursés de pré-étudiants, des choses comme ça. Mais ouais, c'est une vraie chance. Là, je vis de la musique et surtout de mes concerts.
Vous vous êtes fait connaître tôt grâce à YouTube?
Ouais, c'est au début YouTube, et puis il y a aussi Instagram, il y a eu TikTok, il y a eu tous ces réseaux sociaux-là que moi je comprenais pas du tout. Et parce que j'ai fait 10 ans de musique avant, des bars, des restos, en croyant que j'allais me faire repérer par un producteur ou une productrice comme à Los Angeles. Et finalement, ça n'est jamais arrivé. Mais je pense que c'est pas encore arrivé, je suis pas de chance ou pas de talent, peu importe. Mais en tout cas, une amie Eva, qui a 2 ans de moins que moi, et ça suffit en fait, à créer le décalage, m'a dit « Écoute Sam, tes chansons sont super, mais si tu ne fais pas de réseaux sociaux, si tu ne postes pas de vidéos, ça ne marchera jamais. »
Vous avez fait 10 ans de bars et de restos?
On va dire 8-9 ans, ouais, un truc comme ça. Après, avec de temps en temps des scènes, des premières parties qu'on me donnait, j'avais quand même quelques coups de bol où on me repérait dans un bar, des choses comme ça.
Donc, dès l'âge de 17 ans?
Donc oui, j'ai commencé à 16 ans à jouer dans la rue, ouais, tout à fait.
Et qu'est-ce qu'on apprend en jouant dans la rue?
On apprend l'indifférence. Et je pense que c'est ce qui me sauvera de plein de choses plus tard si jamais ça continue.
Expliquez-nous.
Bah, je crois que, en tout cas, moi, c'est la chance que j'ai eue dans cette nouvelle école, dans cette école, c'est la meilleure école possible, pardon. Quand on apprend la musique et qu'on veut faire une carrière, moi je voulais faire une carrière, je voulais avoir un public, je m'en suis jamais caché d'avoir l'ambition de faire quelque chose de bien avec ma musique, pour moi comme pour les gens, tant mieux. Et l'indifférence dans la rue, c'est les gens qui vous écoutent pas, les gens qui passent, et quand on a une foule de 20 personnes, on est super content. Donc en fait, on se contente de peu de choses, et puis l'indifférence, on la retrouve après. C'est-à-dire que là, on a fait des premières parties cette année dans des zéniths, donc forcément ça change un peu de la rue, mais moi ça m'a appris que le public il est pas donné, il est pas acquis, il faut aller le chercher, et peu importe qu'on soit fatigué, peu importe qu'on soit nage, les gens ont payé une place. Les gens ont payé une place, ils ont envie d'avoir de la musique, donc il faut aller les chercher aussi par le bras de temps en temps pour les convaincre qu'on est là pour leur faire passer un bon moment.
Sam Sauvage est l'invité de La Balade, 25 ans, il sort son premier disque après 2 EP, après avoir commencé aussi sur YouTube à poster ses chansons. On va écouter quelques-unes de ses chansons. C'est un choix florilège d'Anne Weinfeld.
Ma douce, je ne suis pas doué ni pour les mots doux, ni pour les regrets. J'ai traîné ma panse toute la nuit durant le long des cafés, mais n'ont rien y fait. Je sais, parfois je blesse à coups de cœur mes êtres aimés. Pardonne-moi mon aigreur, rien n'est plus fort que le passé. On est là, comme les fous, comme les chiens. On est là, à se faire bouffer tout le foin de notre haine. Et puis nous voilà qu'on s'entraîne, à mort, mis à mort, dans l'arène. C'est le sourire d'un homme qui a fait le mien quand il m'appelle bonhomme au fond du jardin. Un homme que je connais bien, c'est les yeux de mon père, celui que j'ai pas, c'est lui la lumière quand les jours se font bas. Quand la vie me fait froid, ce sont les mots justes, la raison du cœur, c'est le qui robuste efface la douleur en douceur. C'est le sens de la vie, de l'amour, des valeurs. Tout ça c'est en lui comme au fond d'une fleur. Au fond d'une fleur. Je vous parle d'un homme, j'aurais pu l'appeler papa. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. Je vous parle d'un homme que je n'oublierai pas. Je vous parle d'un homme, de mon grand-père à moi. À moi. Les âmes sensibles ont de beaux jours devant elles, c'est ce qu'on leur a dit, pour ne pas qu'elles ferment les yeux dès que la vie les enlaidit. Elles passent leur temps à faire des vœux, traînant leurs pieds nus dans la nuit, cherchant du regard le ciel bleu au travers d'un nuage gris. Des garçons émotifs et des filles qui ne parlent pas, cachant sous des parapluies dans un vent maladroit. Mais c'est pas noir ou blanc dans le cœur de ces gens vivants. On devrait la vie parler donc. Mais c'est pas évident. Les âmes
sensible ont dans le ventre de précieux papillons de nuit qui veillent sur la flamme imprudente d'un enfant qui prend tout pour lui, qui s'émerveille et s'éblouit comme il sommeille et se défile au gré des peines et des ennuis qu'il traverse d'un éclat de rire. Pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes, dont se plaignent les vieilles dames. Y'a les gens qui crient, tout le temps, ceux qui sourient, de temps en temps. Et y'a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. Ce midi dans votre bulletin météo, rien de frais, rien de nouveau. Les températures sont en hausse et le soleil tape sur les côtes. À la frontière est, pourtant, c'est le grand retour des bottes. Une pluie battante, des orages, mais rien d'inquiétant. Profitez de la plage et des compotes. Je peux au moins vous garantir à cet instant qu'il va faire chaud.
Il fait chaud là, non ?
On vient d'écouter combien d'années de Sam Sauvage ? Au moins 3.
C'est ça, 3 ans.
Et c'est intéressant parce que, bon, il y a vos EP, il y a le dernier disque, etc., dans ce cas, choisi Anne Weinfeld, mais on voit à quel point, d'abord, vous imitez un peu des grands maîtres. Il y a un moment, je vous dis, tiens, là, c'est peut-être un petit peu Brel, tiens, là, c'est peut-être un petit peu Miossec, tiens, là, c'est un peu une mélodie à la Alex Bopin. Et vous étiez d'accord avec tout ?
Tout à fait.
Même à un moment, il me semblait reconnaître quelque chose de Philippe Catherine. Oui, oui, je l'ai rencontré, je l'admire.
Absolument.
Et vous assumez tout cet héritage, tous ces héritages.
Bah oui, parce que moi je pense que je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on commence toujours par imiter, on est obligé parce qu'on est influencé. Moi j'ai surtout la prétention dans le style de chanson que je fais, c'est-à-dire de la chanson française mélangée à de la pop, tout ça, ça a beau être très éclectique peut-être, comme on me l'a dit, ça reste quelque chose, je n'ai rien inventé. Et en fait j'ai pas la prétention d'inventer quoi que ce soit, moi j'ai juste la prétention de m'exprimer, c'est-à-dire mais je m'exprime avec la musique que j'aime, avec les mots que j'aime, etc. Et bien sûr que j'ai été tellement influencé, tellement biberonné par des références qu'elles reviennent tout le temps et je les assume à 100% parce que ce serait dommage de les renier alors qu'elles sont là.
Est-ce que vous avez trouvé Sam Sauvage ou vous le cherchez encore ?
Je pense que je le chercherai toute ma vie si j'ai la chance de faire de la musique toute ma vie. J'aimerais bien avoir cette chance-là. Mais par contre, là, je l'ai trouvé un peu plus depuis, je pense, les morceaux comme Pas Bourré, tout ça, Vite Tempête, qu'on a écouté de l'album. Là, sur l'album, je l'ai quand même plus trouvé qu'il y a 3 ans. En tout cas, j'ai trouvé plus ma voix, j'ai trouvé
Absolument.
Plus mon placement. Donc voilà.
On entendait effectivement une voix qui se cherchait au début, qui allait un peu dans les graves de Bachoum, même si vous avez des graves naturelles. Et il y avait des petites pointes à la Catherine Ringer. par moment.
Ça fait plaisir.
Bah oui, c'est des belles références, ça aussi. Ouais. Et avoir une voix grave, ça peut jouer des tours, c'est-à-dire qu'on peut difficilement parfois la moduler. Comment ça se passe avec elle? Quel est votre rapport à votre voix, Sam Sauvage?
Oh bah, y a des matins je l'adore et puis y a des matins je la déteste. Là je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de voix, donc c'est quand même sympa pour pour ça et pour le concert de ce soir. C'est juste qu'en général, je trouve que j'ai une voix qui parfois fluctue, j'ai une voix qui est pas stable en fait. Et je crois que d'ailleurs il va falloir que je m'entretienne aussi. C'est un truc que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant.
Cours de chant.
Exactement, cours de chant, mieux manger, mieux boire, comment ne plus boire plus d'eau, des choses comme ça. C'est important en fait. On se rend compte que la santé physique, surtout quand on fait une première tournée, même moi à mon âge, genre 25 ans et tout, on peut se dire ah ouais, on peut être très rock'n'roll, pas du tout. Je crois que ça peut très vite nous jouer des tours.
On écoute encore de la musique ensemble, vous voulez bien?
Avec plaisir, bien
puisque
sûr.
Vous avez choisi Nous étions une armée. Je voudrais que vous nous parliez de ce duo de garçons et d'amis.
Moi je les adore, je sais pas pourquoi, je les ai découverts sur Instagram, on a beaucoup échangé. Je trouve que c'est un groupe assez brut, assez authentique comme ça, et puis qui reprend des sonorités que j'aime beaucoup, qui parle aussi de fragilité, de fragilité d'être. Et en fait je sais pas pourquoi ça m'a parlé, j'étais très content de découvrir que c'était dans la playlist de France Inter, oui. Tout ça. Je me suis dit bah c'est pas vrai, c'est que vraiment j'ai eu l'œil juste déjà, j'ai bien aimé. Et puis ouais, je les invite d'ailleurs à faire une première partie à La Cigale, là, c'est eux qui vont ouvrir pour nous, pour nous.
Vous qui avez été tellement en première partie de gens comme Feu Chatterton, Zao de Sagazan, Eddie de Pretto, Jimmy Somerville aussi.
Exactement, hein? À 17 ans, ouais.
Maintenant, c'est vous qui prenez des premières parties.
Ouais, ça me fait bizarre, ça. C'est pour ça que j'ai du mal à dire première partie. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un co-plateau. C'est juste que oui, les gens, ils ont pris la place pour venir voir Sam Sauvage, mais bon, moi, j'ai envie qu'ils découvrent autant Nous étions une armée que Sam Sauvage. Enfin, je trouve que c'est tout l'intérêt de faire des premières parties.
Nous étions une armée, c'est Léo Niveau et Rémi Le Taillandier, et ils chantent Ne pas regarder en bas. Peut-être que vous aussi, maintenant, vous aimez Nous étions une armée. Ils ont sorti leur premier disque en octobre dernier, Mais le ciel est sublime, c'est le titre. Parler de votre style musical, Sam Sauvage, c'est effectivement dire que vous faites une sorte de fusion de pop, de chansons françaises et d'électro. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que c'est trop restrictif comme définition de votre musique?
Mais pour moi, n'importe quelle étiquette est trop restrictive. Parce que disons que...
Qu'est-ce que vous rajouteriez?
Bah, Déjà, je comprends qu'il faut des étiquettes. Je comprends qu'il faut des... qu'il en faut pour les gens, ça rassure. Moi aussi, ça me rassure quand j'écoute un style. Je sais ce que je vais écouter, parce que je sais ce que je vais aller voir en concert. Quand je vais voir de la funk, c'est que je vais pas voir du rap. C'est juste que moi, dans ma façon de faire, je disais que je faisais de la musique pour pas m'ennuyer. Parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite, mais je fais tout à fait partie de ma génération. On est tout le temps stimulé par ce qu'on a, par les écrans, les choses comme ça. Donc on s'ennuie très vite. Et c'est forcément un inconvénient, mais c'est un super avantage parce que moi, du coup, je fais de la musique très éclectique. J'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de faire parfois de la techno, parfois des morceaux presque de métal où j'envoie mes guitares comme un dingue. J'ai pas tout sorti sur l'album, donc on n'aura pas l'occasion d'écouter tout ça, mais c'est ce que j'aime, c'est me balader dans tous les styles, et demain, si j'ai envie de faire du rap, je ferai du rap, quoi.
C'est vrai ?
Ouais, j'ai pas peur de ça. Je pense que bon, il y en a beaucoup qui rigoleraient en entendant ça, mais on rigole toujours en disant c'est impossible, c'est tout un machin, mais je pense que moi, j'aime pas mettre de limites, c'est justement ce qui me plaît dans ce métier-là.
Oui, mais vous aimez beaucoup chanter, et peut-être que le rap vous frustrerait pour ça.
Ça me desservirait, mais je pense que justement, moi je pense pas à les albums. Je sais que j'ai sorti un album parce qu'il faut sortir un album, mais si ça tenait qu'à moi, je dis toujours ça, c'est que je sortirais les chansons une par une, et si j'en avais fait trois dans la journée, bah je sortirais les trois le lendemain. Je sacralise plus les chansons que l'album. Pour moi, les chansons sont des œuvres, l'album c'est juste un contenant. Donc à partir de ce moment-là, je pourrais faire une chanson de rap, une chanson comme ça, une chanson comme ça, et je suis pas à l'abri, si jamais demain ça continue, je touche du bois, c'est de pouvoir faire un nouvel album où là je fais vraiment tout ce que je veux, c'est-à-dire il y a un morceau de rap et à côté il y a un morceau piano voix, très chanson française.
Et qu'est-ce qu'elle en dit votre maison de disques?
Je pense qu'ils ont du mal, ils auraient du mal à me suivre. Déjà, j'envoie des morceaux, ils me font oulala, ça part dans tous les sens. Mais ils aiment ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'ils voulaient me proposer de travailler avec eux. C'est pour ça qu'on travaille ensemble aujourd'hui. C'est parce qu'ils s'attendent pas au prochain morceau. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans, et pour moi aussi.
On va dire son nom à cette maison de disques.
Bien sûr, c'est 5-7 de chez Bagram.
Sam Sauvage aime les mélodies, la mélodie. Véronique Sanson est une de nos grandes mélodistes. Vous l'avez choisie, Véronique Sanson.
Absolument.
Comme chanson fondatrice. C'est ce que vous demande Fanny Leroy quand elle vous écrit pour préparer l'émission. Et la chanson que vous avez choisie, c'est la chanson des années 70, Chanson sur ma drôle de vie. Pourquoi celle-ci ?
Bah, c'est drôle parce que je me rappelle que c'était un moment où... là, c'est vraiment un truc un peu personnel, mais bon, pour une fois que j'en parle, ça va changer.
Oui.
C'est que j'avais un petit moment où j'avais monté un duo avec une amie, c'était dur, et il y avait eu le Covid, des choses comme ça, et je croyais plus en la musique. Je me disais, voilà, faut peut-être arrêter là, j'ai l'impression que les portes ne s'ouvriront jamais, et que je pourrais pas en vivre, et ça commence à devenir pesant, autant pour ma mère que pour moi, financièrement, tout ça. Et il y a ma grand-mère, justement, qui écoutait cette chanson et qui me l'a envoyée, et qui m'avait dit, écoute, peu importe ce qui se passe dans la vie, ça ira. Et en fait, cette chanson-là permet d'entendre ça, et en plus, avec une bonne mélodie, donc moi ça me parle, et avec Véronique Sanson, qui est une excellente chanteuse, donc ça me parle aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
Merci grand-mère.
Ah ben merci grand-mère, ouais.
Véronique Sanson, chanson sur ma drôle de vie, c'est le choix de Sam Sauvage.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête, et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. Tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les autres te t'aiment, t'es drôle de poème, et viens avec moi. Et si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts.
pensais que vous alliez chanter là, sur cette chanson, mais non.
Ah non, non, chanter comment, par-dessus la
chanson? Ah oui, par-dessus la chanson.
Non, non, je réserve ça pour les concerts. Je garde la voix pour les concerts.
J'ai l'impression que vous êtes un peu pudique.
Oui, oui, bien sûr, je le suis.
Vous êtes un petit peu pudique, Sam. Absolument. Sauvage. Pourquoi sauvage, d'ailleurs? Je ne vous ai pas demandé. J'ai su que Sam, vous m'avez donné une explication tout à l'heure, j'ai compris, mais sauvage.
Parce qu'il fallait trouver un nom de scène qui claque, et je trouve que ça claque plus que Hugo Brobion. Donc, Sam, parce que c'était mon surnom, et puis sauvage, parce que ça évoque aussi un truc par rapport aux cheveux. Bon, j'ai toujours des cheveux indomptables, donc c'était un peu la blague là-dessus, mais c'était un peu court pour en faire un nom de scène. C'est surtout parce que sauvage, ça évoque aussi une forme de liberté, un peu de désinvolture, d'incandescence, un peu indomptable. Et moi, c'est un peu ce que j'aimerais bien être dans la vie comme dans la musique, indomptable.
Vous avez vraiment quelque chose de sauvage?
À la fois, on pense, parce que justement, on pense que la pudeur, toutes ces choses-là, qu'on est bien élevé, qu'on est poli et tout, mais moi je trouve que dans mes chansons, je suis pas tant que ça bien élevé. Je raconte justement la vie des gens, déjà que je leur vole. Et puis en plus, je pense que je suis sauvage dans ma façon d'aborder autant la vie que la campagne, que la nature. Je reste sauvage, j'ai besoin d'observer les gens, j'ai encore un regard, j'espère, neuf là-dessus, et je crois que c'est ça, un regard.
Donc sauvage au sens de nature aussi.
Exactement, nature, et pas nature la verdure, mais nature dans la façon d'être, oui. J'espère que c'est ça.
Je trouve que vous avez de jolies formules, presque un peu à la façon des auteurs du XXe siècle. Un peu comme Mouloudji, par exemple, quand vous dites « quand je serre le corps de ma bien jolie, j'entends les accords d'un cœur attendri ». C'est beau?
Ah ben merci.
C'est beau, ça a quelque chose d'un peu désuet, mais c'est pas péjoratif dans ma bouche.
C'est parce que moi, l'amour, j'ai un amour désuet, moi.
Alors, comment il se traduit?
C'est parce que, je pense pas que ma vie amoureuse intéresserait grand monde ici, mais c'est simplement comment, dans ma façon de le voir et ma façon de l'écrire plutôt, c'est que je l'ai toujours pensé très romantique.
Oui, c'est ça, c'est plus romantique que désuet.
Exactement.
Mais vous chantez beaucoup l'amour.
Ouais, exactement. Et je suis d'ailleurs déçu que le romantisme soit maintenant désuet. J'aimerais beaucoup que ça revienne parce que je crois que c'est quelque chose qui nous touche tous, qui fait du bien aussi au cœur, à l'âme et aux yeux. Donc j'aimerais bien que ça revienne, ce genre de choses.
Alors le romantisme chez un garçon de 25 ans comme vous, Sam Sauvage, il se traduit par quoi? Par l'envoi de roses? Par une demande d'un mariage à genoux? Comment vous l'imaginez, ce romantisme? Comment il se traduit chez vous?
Alors c'est pas du tout celui-là. Justement, c'est pas du tout celui qui est matériel ou celui qui ressemble au mariage. Bon, je suis très loin de tout ça. Je pense que c'est la façon de concevoir ses relations, la façon de respecter les gens aussi avec qui on est en relation, la façon de se parler aussi. Et puis c'est aussi des... Moi j'ai un romantisme un peu pudique, c'est-à-dire que je dis rarement autant dans la famille, on se dit pas je t'aime, on n'a pas besoin de se le dire, on a d'autres façons de s'en parler. Et pareil dans mes relations amoureuses, bon, j'ai un truc comme ça où je fais des chansons d'amour où justement je dis que je suis incapable de dire je t'aime. Donc c'est un peu compliqué. Parfois je dis même plus facilement je ne t'aime plus, ce qui n'est pas le cas de tous les gens.
Il y a une chanson comme ça.
Exactement, qui est très violente, que je ne recommande à personne après le langage de l'amour, c'est un peu direct. Mais ouais, c'est un romantisme de la façon de voir le monde à deux aussi, à un instant précis. C'est ça que j'aime, moi j'aime. Et par contre, oui, j'aime aussi des clichés, c'est-à-dire se balader dans les rues de Paris la nuit avec le quai, la pluie qui nous tombe dessus, et puis et un baiser à la fin, ça j'ai toujours trouvé ça très très mignon, mais c'est pas que pour ça le romantisme, c'est une façon de voir le monde et une façon de le faire avec quelqu'un.
Quel cinéma vous aimez?
Aucun. Moi j'aime le cinéma de la vie, il me suffit amplement.
Ah oui, vous n'allez pas dans les salles?
Mais très peu, non, je suis très peu cinéphile d'ailleurs. On me recommande tout le temps d'aller voir des films. J'ai aucune référence de film, mais d'ailleurs je suis pas un grand... Il y a plein de gens qui m'ont dit tu dois lire beaucoup, voir beaucoup de films, tout ça. Ça me touche beaucoup qu'on pense à moi. C'est juste que moi je suis pas un grand consommateur de culture, bizarrement. Je consomme plus la vie des gens, la vie autour, la ville en elle-même. J'aime beaucoup me balader en ville, j'aime beaucoup voir ça. Et je trouve qu'on assiste déjà à des scènes de films dans la vie de tous les jours. Surtout que plus la réalité avance, plus le temps avance, plus on en paraît déconnecté, donc plus il se passe des choses lunaires. Donc moi c'est plus le film de la vie qui m'intéresse, même si de temps en temps un bon film ça me fait plaisir, mais à part Franck Dubosc en ce moment je regarde pas grand chose. C'est vrai.
Gaëtan Roussel vous inspire-t-il, Sam Sauvage?
Bien sûr, pour la carrière qu'il a fait forcément, et puis aussi pour sa façon de chanter qui est très singulière, pour les textes aussi qu'il écrit, j'aime beaucoup, et je l'ai vu en concert, moi, avec Louise Attaque il y a longtemps, quand c'était passé du côté de Boulogne-sur-Mer, donc j'avais beaucoup aimé, et en plus il m'avait invité à faire un duo avec lui sur une chanson pour un petit live et tout, dans une radio, c'était vraiment hyper sympa, et j'en ai un souvenir un peu impérissable de quelqu'un qui respecte les jeunes artistes, et qui leur donne beaucoup de force, comme on dit.
Et il est très attentif aux autres, Gaëtan Roussel, aux autres musiciens, il les met en valeur. Et il aime chanter aussi avec des musiciens, par exemple, sur son dernier disque. Il a proposé à Bernard Lavilliers de le rejoindre sur le disque Marjolaine. Et tous les deux, ils chantent « Lové ».
Fermé, rêve d'un monde imaginaire, par un amour. fragile et émouvant.
Voler, voler, voler vers un diamant solidaire, une route imaginaire, bordée, bordée, bordée de résine à la lisière et de fleurs d'une sincère beauté, beauté, beauté. Nos visages qui s'éclairent,
nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants.
Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Cachés, 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 la vie comme un grand mystère, une énigme, un caractère, trempé, trempé, trempé.
Mais vers où coule la rivière? Dans quel sens, quel hémisphère? Chercher, 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 nos deux corps dans la lumière.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants.
Et nos cœurs qui accélèrent, soudés, soudés, soudés,
rêve d'un espoir, d'une première,
d'une île, d'un itinéraire,
d'un soleil que l'on espère
briller, briller, briller,
d'un espoir, d'une première, d'une île, d'un itinéraire.
Nous sommes des êtres vivants, chahutés par moments, fragiles et émouvants. Des êtres vivants, chahutés par moments, sensibles et chancelants.
Les accompagner à la guitare, Sam Sauvage.
Ouais, je suis pas un grand soliste, mais j'aimerais bien.
Je ne suis qu'un conteur de fables, dites-vous dans la chanson Hypocrisie. Est-ce que vous vous voyez comme un moraliste, comme un fabuliste? Est-ce que c'est ça, un chanteur, quand on est Sam Sauvage?
Alors, surtout pas comme un moraliste. Je veux dire, loin de moi l'idée, et c'est pas pour faire plaisir, c'est que je suis comme ça, je donne pas des leçons à personne, et dans mes chansons, je ne juge pas. En tout cas, c'est ce que j'essaie de laisser transparaître.
Oui, mais dans une fable, il y a un épilogue qui a souvent valeur de morale.
Oui, c'est ça. Et bah, pour moi, c'est, alors, c'est peut-être pas des fables à valeur de morale, moi, c'est, que, du coup, c'est peut-être ce qui les différencie des chansons. C'est plus comment une idée où je donne des idées, je donne forcément mes idées, hein, ça reste mon regard, même si j'écris sur les gens, on peut pas écrire sur les gens deux fois de la même façon. C'est mon regard qui est à cet instant T dans la chanson. Mais pas des morales, mais par contre des ouvertures, des idées, des pensées, des réflexions, et puis surtout comment une invitation à danser justement sur cette fin du monde, des choses comme ça. C'est plus ça qui me parle.
En parlant de danse, je disais tout à l'heure que vous aviez fait la première partie de Grand, Zao, de Sagazan, entre autres. Est-ce que vous les avez tous observés, Edith de Préto, et est-ce qu'ils vous ont appris à bouger, à occuper une scène?
Alors, ça aurait été beaucoup mieux. Disons que moi, en fait, j'aurais pu apprendre de tout ça. Et je pense que maintenant, j'apprends, même quand je vois Arthur Teboul, comment de Fashatterton danser quand on a fait la première partie à Lille, je le voyais et je me dis, ok, c'est vraiment comme ça, c'est intéressant, la façon de s'exprimer dans le corps, sur scène. C'est juste que moi, ça a été plus, encore une fois, comme beaucoup de choses dans ma musique et dans ma vie, un accident où la première fois que je me suis retrouvé sur scène, j'avais oublié que j'avais pas la guitare et là, j'avais comment un groupe derrière moi. Donc, j'avais pas de guitare et je m'en suis rendu compte au moment de monter. C'est vraiment stupide, mais...
Et alors ?
Et du coup, il fallait faire quelque chose de mes bras et de mes jambes, mais en fait, là, c'est là que les bras paraissent lourds, que les jambes paraissent énormes, et qu'on sait pas où se foutre. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'après, moi, j'ai commencé à danser, à faire ces mouvements avec les gens un peu décomplexés, parce que je savais pas quoi faire, j'ai laissé mon corps s'exprimer à ma place, et les gens ont trouvé ça génial. Et je les ai regardés en disant, mais vous fichez de moi, enfin, il y a rien de génial dedans. Et en fait, quand on a continué, on s'est rendu compte que les gens aimaient bien ça, parce que je pense que ça les décomplexait eux aussi de danser n'importe comment. Et c'est peut-être ça, le message que mon corps a fait passer malgré lui.
Mais oui, il y a un corps de Sam Sauvage sur scène,
Il y a un corps un peu burlesque, d'ailleurs, même dans vos clips.
Hein. Complètement.
Vous jouez avec ce corps qui s'allonge sur un banc dans un abribus ou qui fait plein de petites folies comme ça et qui cherche à exprimer des choses aussi par le mouvement.
Je crois que c'est un corps qui cherche sa place. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, moi je suis très peu danseur, j'ai jamais été très touché par la danse, ça n'a jamais été un art qui m'a vraiment marqué. Je peux aller voir de la danse, mais je suis pas autant touché que par de la musique ou par un poème. J'ai beaucoup plus d'après que les mots. Donc le physique, c'était moins mon truc, et surtout mon corps, j'ai jamais su où le mettre depuis que j'avais 15 ans, quoi. Donc dans la cour, j'étais trop grand, dans la fac, je n'avais pas où me mettre parce que j'étais trop petite, mais machin. Et puis il y a quelque chose où je suis mal à l'aise avec ce corps-là, et du coup, plus je le regarde et plus je le laisse faire n'importe quoi, mieux je me porte avec, et moins j'y pense.
Vous mesurez combien ?
Bah pourtant pas tant que ça, enfin 1m88, donc oui c'est grand, mais je veux dire il y a des gens plus grands. Juste que moi je sais pas pourquoi il y a cette proportion où j'avais des bras plus longs que le torse quand j'avais 14 ans, et franchement c'était bizarre, on aurait dit un alien à l'époque, mais je vivais j'ai finalement bien vécu avec ça.
Je suis pas beau.
Je suis pas beau, exactement.
C'est une chanson qui est dans le disque, le premier disque de Sam Sauvage, Mesdames, Messieurs.
Ouais.
On l'écoute tout simplement, on n'en dit rien de plus, puisqu'on a déjà parlé de votre rapport à votre corps et à votre physique.
Exactement, bah c'est de là d'où ça vient. Donc je suis pas beau, c'est ça.
Maman m'a dit que j'étais spécial, que j'étais le plus beau de l'école. Alors j'ai cru ma belle étoile, mais quand derrière moi ça rigole, la vérité s'est faite brutale quand j'ai adressé la parole à cette fille qui me dressait les poils. J'ai compris que j'avais pas eu de bol à la loterie génétique.
Oh non,
c'est que des mathématiques qui font de toi le plus petit, le plus grand, le plus débile, le plus fort, le plus minci. Mais moi je sais que je suis pas beau. Tu crois que ça me fait défaut, tu devrais venir voir à quel point ça m'avantage. Faire pas ton bon miroir, moi je sais que je suis pas beau. Qu'avant je le vivais mal, maman me disait que c'était normal, que ça s'arrangerait avec l'âge. Mais j'ai lu sur son visage un joli paquet de mensonges que les beaux mecs me disent au fond pour se faire une bonne action, passant pour des gars profonds. Que les meufs qui retiennent pas mon nom me disent en pleurant les bouffons. Oh quel temps je m'étais de con, moi je me suis fait une raison. À la loterie génétique, c'est que des mathématiques qui font de toi le plus petit, le plus grand, le plus débile, le plus fort, le plus minci. Mais moi je sais que je suis pas beau. T'as beau me le dire, c'est que c'est faux. Et si tu crois que ça me fait défaut, tu devrais venir voir à quel point ça m'avantage. Je perds pas le temps devant le miroir, moi je sais que je suis pas beau. Je suis pas beau, et c'est comme ça. Ce monde est fou, comme au cinéma. Faudra s'y faire, mais tu verras qu'à ta manière, on t'aimera.
C'est un peu votre « Allô maman bobo » à vous, ça.
Oui, on m'a dit ça. C'est drôle parce que je ne m'étais pas du tout inspiré de Souchon en faisant ça, mais c'est sorti comme ça.
Ben c'est bien, c'est une bonne référence aussi.
Encore une.
Est-ce que vous avez peur de changer, Sam Sauvage ? Est-ce que vous avez peur du succès, de la reconnaissance, de la notoriété ?
Bah, je pense que tout le monde pourrait en avoir peur si demain il y avait un énorme succès qui se profilait, parce que forcément que ça change la vie. Moi là, ma vie elle change, oui, mais elle change pas dans ma façon de la penser, dans ma façon de l'appréhender, et surtout elle change pour le meilleur, c'est-à-dire de faire plus de concerts, de rencontrer plus de monde et de pouvoir mieux parler ma musique. Après le reste, moi je suis dans la rue très tranquille, de temps en temps il y a quelqu'un qui me fait « Ah, t'es le musicien » et parfois on se trompe de nom. Donc c'est pas comme si j'étais, je veux dire, je pense que ce qui fait peur c'est de devenir une star. Moi je suis pas une star, donc je suis tranquille avec ça. C'est-à-dire que moi il y a des gens qui viennent, je suis content quand mes salles sont remplis, quand les concerts sont remplis, ça nous permet d'être plus de monde pour faire la fête, mais ça s'est pour l'instant arrêté là, donc la suite je peux pas la prédire. Mais
vous retournez quand à Boulogne?
Oh bah dès que je peux. à chaque fois. Là, on y retourne pour un festival, certes, mais moi, j'y retourne même des fois, dès que j'ai un week-end tranquille, que il n'y a rien, il n'y a pas de concert, pas de promo, tout ça, machin. Bah là, du coup, je passe faire un petit week-end à Boulogne pour mieux manger, mieux dormir, et puis surtout aller revoir mon chat, ma mère et mes grands-parents.
Ouais. Vous emportez votre linge ?
Souvent, ouais, mais ça va, là, j'ai investi dans une machine à laver. Donc, grâce à cet album, je plaisante.
Et votre voisine vous remercie en plus du saxo, c'est ça ?
C'est ça, bah oui, je lui fais un petit concert tous les soirs, c'est ça.
Eh bien, on est heureux de mieux vous connaître, Sam Sauvage, on vous défend sur France Inter. Vous n'avez pas besoin d'être défendu, mais en tout cas, on vous soutient. Et bonne suite à vous, plein de succès à votre premier disque qui s'intitule Mesdames, Messieurs. N'oubliez pas que dans une semaine, samedi prochain, vous êtes sur scène, vous serez où ?
Tout à fait, on sera à Brétigny-sur-Orge, on sera au RACAM, c'est ça. Et puis j'ai appris récemment que c'était complet d'ailleurs, donc moi ça m'a fait hyper plaisir. Et ouais, j'ai hâte, moi, que la tournée commence, c'est ce que je préfère.
Bah, j'espère vous dire à bientôt, Sam Sauvage.
Bah, moi aussi j'espère, et merci de m'avoir reçu.
Anne Weinfeld a réalisé cette émission préparée avec Fanny Leroy. Valentine Chedebois a programmé la musique et aujourd'hui à la technique, c'était Anne-Laure Cochet.